RFI, grand reportage.
Marie-Pierre Olfant.
Comme papier, je suis marocain. Comme un être humain, je suis marocain. Et comme papier, j'ai aussi une résidence espagnole.
Comme de nombreux Sahraouis, El Alaoui Sidi Mohamed est tiraillé entre plusieurs identités. Alaoui vit aussi séparé de ses amis. Il a grandi au Sahara, administré par le Maroc, le long de la côte atlantique. Ses proches ont fui la guerre et vivent aujourd'hui dans les camps de réfugiés près de la ville algérienne de Tindouf.
J'ai trouvé des amis en Espagne, je chatte avec eux quand ils rentrent à l'Algérie ou bien à Mauritanie. Mais on vit vraiment... On vit ici mieux que dans tous les domaines, sur le plan social, sur le plan économique, même le plan politique.
Deux réalités différentes que chacun apprécie à sa manière. Le dossier du Sahara est devenu aujourd'hui une affaire très politique, explique Bachir, un jeune homme de Smara, ville marquée par les années de guerre.
Dans une seule famille, il y a qui pro-marocain, il y a un autre pro-polisario. C'est un problème politique qui accentue les différences entre les personnes à partir d'une seule famille.
Est-ce qu'il y a des gens qui sont neutres? Est-ce qu'il y a des Sahraouis qui sont neutres?
Il y a des Sahraouis qui se sont neutres et des Marocains qui se sont neutres. Mais la plupart, soit qu'il est pour avec les des Marocains ou avec l'idée de polisario. Entre les Sahraouis eux-mêmes, il y a une totale différence.
Le projet que défend Rabat est celui d'une autonomie sous souveraineté marocaine. Le Front Polisario s'en tient, lui, au référendum d'autodétermination qui proposerait au vote l'autonomie au même titre que l'indépendance ou qu'un éventuel rattachement au royaume chérifien. Depuis le cessez-le-feu de 1991 et l'échec des Nations Unies à trouver une solution, le statu quo s'est enraciné. Chaque jour, le Maroc marque un peu plus son emprise sur le territoire. Les projets immobiliers fleurissent à la sortie de la ville de Laayoune. Il s'agit de préparer le retour, un jour, des réfugiés de Tindouf. Talib Mohamed est membre du CORCAS, le Conseil Royal Consultatif pour les Affaires Sahraouis.
Notre grand souci dans la région, c'est de préparer ce retour de nos concitoyens qui vivent vraiment dans des situations vraiment inacceptables de l'autre côté. Donc on attend le retour chez eux et ils vont trouver qu'on a préparé tout pour les accueillir.
Donc ce retour, c'est un acquis?
Bien sûr, bien sûr. On voit déjà. Et en tant que membre du CORCAS, on a des contacts chaque jour des gens qui veulent venir, qui veulent revenir chez eux. Donc espérons que ce Manhast 4 apportera une solution à cette misère humaine. Le référendum et tout le baratin, on n'en parle plus maintenant. C'est dépassé parce que les Nations Unies est convaincue et l'opinion publique internationale est convaincue de l'impossibilité d'un référendum. Parce que tout simplement, on ne peut pas identifier celui qui est Sahraoui, celui qui ne l'est pas.
Les Marocains du Nord sont encouragés à venir s'installer dans les villes sahariennes de Dakhla, Laayoune ou encore Smara. Sur les trottoirs pavés de la capitale du Sud, les djellabas et les djinns côtoient les boubous traditionnels et les voiles colorées des femmes sahraouis. Mais la mixité n'a rien d'évident, raconte avec spontanéité une jeune Marocaine.
Les gens qui habitent la ville de Laayoune, ils sont encore, comme on dit, anciennes, des anciens hommes. Oui, disons traditionnels comme ça. Il y a du Sahara, il y a des tentes, il y a des, tu sais, des nomades, la vie de nomades dans la ville. Oh là là, c'est bizarre, c'est difficile. Parce que tu sais que ça veut dire quelqu'un qui habite dans une maison, et elle a des choses dans la maison qui, comme il habite dans le Sahara. Je vois un homme qui prend beaucoup de sable, il le met dans le salon et là, il s'assoit sur le sable et il est très content. Première chose, on a dit beaucoup de différences entre nous et les Sahraouis.
La mentalité, la tradition, les habits,
les repas qu'on mange. Les Sahraouis ne savent pas comment manger, ils mangent des choses bizarres.
La La photo du roi Mohamed VI en tenue militaire ou alors un bébé au bras est accrochée presque dans tous les bureaux de l'Aïoun. L'administration marocaine est omniprésente. Un état de fait que chaque Sahraoui vit différemment. Beaucoup font le grand écart entre un passé de militant et une position qui se veut neutre, voire pro-marocaine.
Je m'appelle Daihan Ahmed Salem. Je suis un ancien détenu politique. J'ai passé 10 ans, 5 mois à Galat Maghouna Agdez.
Et pourquoi vous aviez été arrêté?
J'étais un militant de Polisario, avec toute sincérité.
Et maintenant, vous ne l'êtes plus?
Non, maintenant, je suis un militant des droits de l'homme, vraiment. Et maintenant, je cherche une solution légale, juste, à ce conflit au Sahara occidental pour tous les Sahraouis vivent librement dans un état bien et libre.
Est-ce que vous avez décidé que le Polisario n'avait pas d'avenir et qu'il fallait agir autrement?
Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire.
D'autres, comme ce chef de tribu sahraoui aux cheveux grisonnants, affichent avec fermeté son ralliement à la thèse de Rabat contre l'indépendance. Daoudi Mahmoud Ouled Daoud de la tribu Regibat.
Nous ne sommes pas d'accord avec l'idée de l'indépendance, car cela va diviser les Sahraouis. Nous avons déjà des centaines de divergences avec le Polisario. L'indépendance ne nous apportera que de nouveaux problèmes.
Certains Sahraouis ont su s'adapter au fil des années. Ils sont à la tête d'une société, d'un hôtel ou font des affaires dans la pêche. Mais il y a aussi ceux qui survivent dans les bidonvilles de l'Aïoun et ceux qui ne vivent que pour l'indépendance. Leurs enfants sont élevés dans l'esprit de la lutte et les jeunes adolescents s'affrontent régulièrement avec les forces de police. Ralia Hamdi est la mère de Sanfi, un jeune condamné le 6 février à un an de prison ferme. Au dernier moment, la cour a requalifié les faits de crime en délit. Aucune preuve n'avait été apporté durant le procès.
L'utilisation de feux de Molotov et le terrorisme, il n'a rien à voir avec le sujet de l'arrestation de leurs enfants. Ce sont les accusations, les délais. Mais leurs enfants, ils connaissent par sa participation dans les manifestations pacifiques qu'a connu le Sahara occidental depuis 2005 jusqu'à l'instant. L'État ici, pendant l'été, a fait une grande propagande sur la télévision et tout ça, en disant que c'est un groupe de terroristes. Ils ont arrêté un groupe de terroristes. Nous parlons du sujet de ses enfants. Et elle est fière que le tribunal a finalement, ils l'ont acquitté d'être terroriste et utilise les feux.
Est-ce que vous pensez que les manifestations ici de jeunes Sahraouis servent à quelque chose?
C'est à l'intérêt du peuple sahraoui que les jeunes participent d'une façon pacifique dans les manifestations. Mais d'après ce qu'il m'a dit, il regrette que son fils a pu abandonner son classe, ses cours.
Dans la rue, sur les murs, des drapeaux sahraouis recouverts de peinture à la va-vite témoignent de cette lutte clandestine et d'une pression constante. À Smara, ville garnison, tout près du mur de défense marocain, la tension est palpable. Ici, plus qu'ailleurs, les militants sont sous haute surveillance et se retrouvent régulièrement entre eux.
C'est presque quotidiennement, on se voit pour planifier les manifestations pacifiques contre l'occupation marocaine au Sahara occidental, particulièrement à Asmara. Il y a des différentes méthodes pour manifester contre l'occupation. Il y a par exemple les manifestations pacifiques des jeunes élèves particulièrement, qui se regroupent pour protester contre l'occupation. Il y a également des activistes politiques qui protestent devant les médias étrangers.
Après les violences de 2005, les manifestations sont plus rares, selon la militante Ralia Djimi, elle-même emprisonnée et torturée durant 3 ans et 7 mois.
À l'époque, c'était une disparition forcée que personne ne savait rien. Même les familles, dès notre enlèvement, personne ne savait rien jusqu'à notre libération. Mais c'est vrai qu'actuellement, c'est baissé au niveau des femmes. Surtout, il n'y a pas de manifestation parce que les manifestations ont été réprimées. Personne n'en ose pas à se manifester.
Les Sahraouis de la Youn sont fatigués de manifester ?
C'est pas question de se fatiguer. Ça, c'est une conviction, c'est une légitimité. Mais vu la répression, nous, on croit toujours qu'on peut faire nos manifestations sans évoquer des problèmes aux autorités, c'est-à-dire des accrochements. Et nous, ils nous laissent l'occasion de les faire. Mais malheureusement, ça peut-être que ça n'arrivera jamais.
Soukaina fait partie des anciennes militantes. Dans son voile rayé, bien serré autour du visage, les joues rondes et les yeux cernés, elle affiche sa détermination.
Je ne suis pas découragée, je ne ferai pas marche arrière. Je ne me sens pas faiblir, je crois en moi et en Dieu. Je ne baisserai jamais les bras.
Est-ce que votre combat a déjà servi à quelque chose ?
Je ne crois pas. Mais je sens que j'ai le devoir de continuer. J'ai même l'impression que je n'en fais pas assez et que tout le monde doit faire plus. Ce pour quoi on lutte est très précieux et on doit se donner entièrement pour cela. Il y a eu du sang, il y a eu des morts dans cette guerre. Je pense que je n'en fais pas assez.
Dans les camps de réfugiés à l'extrême sud-ouest de l'Algérie, le provisoire est devenu peu à peu définitif. Autour des guitounes vertes, les tentes du Haut Commissariat aux réfugiés, de petites pièces en briques artisanales ont vu le jour, sur un désert des plus arides balayé par le vent. La situation dure depuis des années, avec le soutien du Programme Alimentaire Mondial, qui fournit aujourd'hui 125 000 rations.
Par exemple, pour la farine, c'est 13,5 kg par personne, par mois. On multiplie par 125 000, on va trouver peut-être 1626 tonnes. C'est ça, normalement. Et pour les lentilles, on a aussi la distribution des lentilles qui se fait, c'est 2 kg par personne par mois. On a le sucre, c'est 1 kg par personne par mois. On a l'huile. Et on a aussi la deuxième distribution, c'est pour le programme nutritionnel. C'est un programme pour les femmes qui sont allaitantes, les mal nourries, tout ça. On a nombre de bénéficiaires, nombre de rations, comme on dit. Ils sont au nombre de 10 000. Ça, on le distribue au niveau des centres médicaux. Il y a des femmes qui sont mal nourries, tout ça. Ils viennent prendre leurs rations, ils mélangent tout ça. Et ils peuvent manger là, sinon ils peuvent ramener ça chez eux, dans la Khaïma.
Donc sans ça, les gens n'auraient pas assez ici à manger, n'auraient pas les moyens de se nourrir ?
Non, il y a le bilatéral qui suit aussi. Il y a des partenaires qui ramènent d'autres choses. Mais le PAM s'occupe généralement des produits de base.
La vie est difficile et surtout monotone dans les camps. Bachir, un fonctionnaire, n'envisage pourtant aucun compromis.
On s'ennuie énormément parce qu'on est là en train d'attendre. Attendre et rien n'arrive. On attend cette indépendance ou cette solution de ce conflit qui est en train de s'éterniser. Donc le fait d'attendre et d'attendre dans ces conditions difficiles est un peu pénible. Mais aussi d'autre part, on n'a pas d'autre alternative.
Est-ce qu'il y a des gens qui savent plus ce qu'ils attendent ?
Bon, on sait bien ce qu'on attend, mais on n'arrive pas à savoir quand ce qu'on attend va arriver. Donc il y a une petite nuance.
Donc il y a des gens qui sont nés ici, qui vont mourir ici sans avoir bougé ?
Personne ne peut dire ça. Mais de toute façon, mourir avec dignité est beaucoup mieux que mourir sur l'occupation marocaine.
Le quartier général de la République arabe sahraoui démocratique se situe à Rabouni, près du camp de réfugiés de Smara. Bachir Mustapha Sayed, membre de la direction du Polisario et frère du fondateur du mouvement indépendantiste, nous reçoit dans un petit bureau meublé d'un vieux canapé de velours. Un blouson chaud sur le dos, les cheveux en broussailles, les traits marqués, il plaide pour une reconquête du Sahara.
La recette, c'est moins d'État et donc moins d'illusions. On doit moins s'installer et se préparer beaucoup plus à faire mouvement, à aller vers un nord qui n'est pas bien sûr le nord géographique, mais le nord politique, vers Ayoun, vers Smara, et divorcer avec ce sentiment de se sentir bien installé ici dans le refuge et croire que, ayant tout simplement les symboles de l'État, on est bien un État. Pas du tout. Peut-être on est ombre, des ombres peut-être. Mais le physique, l'arrière, la source, c'est le Sahara occidental.
Le constat a été de dire que les gens s'étaient un petit peu endormis ?
Endormis, démobilisés, et c'est la situation propice, idéale, pour la conjugaison de la guerre d'Izir, la guerre psychologique, la guerre d'Izir, l'Izir moral.
C'est qui s'est endormi ? C'est les anciens combattants ? C'est les jeunes qui n'ont pas connu la guerre ?
Absolument. C'est deux et l'ensemble de la population.
Sur 200 médecins sahraouis formés à l'étranger, notamment à Cuba, seulement 20 sont rentrés dans les camps. Les autres ont préféré l'exil à la vie de sacrifice ou de militantisme. Sept ans après le cessez-le-feu, personne ne semble miser sur les nouvelles négociations directes entre le Maroc et le Polisario qui se déroulent à Manhasset, près de New York. Pour beaucoup, la solution ne peut venir que de l'extérieur et avant tout d'un rapprochement entre le Maroc et l'Algérie. L'Algérie montrée du doigt du côté des responsables marocains, comme Hassana Moulaynine, directeur du Centre Régional d'Investissement de l'Aïoun.
Si on arrive, et j'espère qu'on arrivera, et de toute façon, on est condamné à arriver à une solution. L'Algérie ne peut pas continuer à se battre pour régler les problèmes algériens, ces problèmes à elle, et Dieu sait qu'ils sont déjà trop pour un peuple algérien qui a beaucoup fait pour vivre dans la tranquillité et la quiétude, et qui est un peuple somme toute ami et frère. Et le Polisario, qui est une appendice de la junte militaire en Algérie, j'espère qu'ils auraient le réflexe positif de comprendre que on ne peut pas continuer dans ce chemin. On ne peut pas continuer à larguer le Maroc, à mettre les bâtons dans les roues, etc. Parce que ça ne sert absolument à rien. Ça ne donne ni la vie, ni le développement, ni la paix pour tout le monde, je veux dire. Ni pour l'Algérie, ni pour le Maroc, ni pour l'Europe non plus.
La France est aussi indexée. Partout dans les camps de réfugiés, on sait que Nicolas Sarkozy a réitéré son soutien récemment au plan d'autonomie proposé par le Maroc. Rencontré devant sa boutique, au bord d'une piste ensablée du camp de l'Aïoun, Abderrahmane en veut beaucoup à Paris. Il a combattu l'armée marocaine de 75 à 91.
Premièrement, nous considérons que c'est la responsabilité du gouvernement français qui ne pousse pas le Maroc à négocier sérieusement avec le Front Polisario. Il se peut aussi que la faute soit la nôtre, parce que nous avions accepté le cessez-le-feu qui n'a jusqu'à présent mené nulle part. Nous ne voulons pas la guerre, nous voulons la paix et l'indépendance de notre pays. Mais comme il n'y a aucun résultat, nous avons peut-être eu tort d'accepter le cessez-le-feu. Reprendre les armes pourrait nous permettre de réparer notre faute.
Est-ce que vous attendez quelque chose des prochaines négociations qui vont avoir lieu à New York ?
Nous espérons qu'elles aboutiront à des résultats, mais je suis pessimiste.
Un jour peut-être, la raison et l'intérêt des populations l'emportera. C'est ce qu'espère Bachir, un Sahraoui dont les frères et sœurs vivent de l'autre côté du mur marocain. Il ne les a pas vus depuis 30 ans.
La solution va arriver quand les deux parties cessent de voir l'autre comme un ennemi. Il n'y a aucune partie qui peut éliminer l'autre. Le problème que les deux parties cherchaient, l'un éliminer l'autre, c'est le grand problème. Il faut que les deux parties sachent qu'elles peuvent vivre ensemble, faire la paix, elles peuvent chercher une solution qui va faire finir ce désastre humain qui fait diviser les familles.
Le Sahara occidental, un conflit enlisé, c'était un reportage de Marie-Pierre Olfan, à la réalisation Marc Minatel, à la technique Cyril Etienne.